Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et nous sommes en compagnie de Xavier Delaporte et de Frédéric Saïs, du sociologue Gérald Bronner et de Cédric Mathiot. Bonjour. Cédric Mathiot, vous êtes journaliste, vous avez créé la rubrique Désintox du journal Libération, autrement dit la rubrique de fact-checking, comme on dit, de vérification des faits. Quand vous entendez dire que les politiques mentent de plus en plus en France comme partout ailleurs, est-ce que cela signifie que votre profession est en quelque sorte inutile ?
Bonjour. Bah, d'abord, c'est difficile de dire qu'ils mentent de plus en plus, mais ça, on y reviendra peut-être. Après, est-ce que notre profession est inutile, ou en tout cas le type de rubrique que j'anime sont inutiles? Ce qui est clair, c'est qu'on est revenu de l'espoir, si jamais on l'a caressé, qu'on arriverait à les corriger. D'ailleurs, c'est pas vraiment pour ça qu'on travaillait, c'était plus pour informer les lecteurs et pour que les lecteurs qui avaient entendu des mensonges puissent les corriger d'eux-mêmes, mais c'était pas pour corriger les politiques. Et de fait, 8 ans après la création de la rubrique, on se rend compte que effectivement on a très peu de prise sur le discours politique lui-même, voilà, et à plus forte raison dans des périodes de campagne électorale où le mensonge se déploie avec une amplitude. Voilà.
Vous, votre sensation, c'est que les politiques mentent en quelque sorte à régime constant?
Je pense qu'ils mentent plus au moment où il y a un enjeu, où l'enjeu est le plus important. Donc, ce qui est assez triste, en fait, mais on le voit très bien dans les campagnes. Bah, dans la campagne, là, aujourd'hui, présidentielle américaine, et nous, on a pu l'observer dans la campagne, lors de la campagne de 2012 en France, où il n'y a jamais eu un dispositif de surveillance du discours politique aussi important, parce que toutes les rédactions avaient lancé, en gros, des rubriques de fact-checking, etc. Et on n'a jamais vu autant de mensonges. Et il y avait très peu d'impact sur le discours. Et Nicolas Sarkozy, qui est un très grand menteur dans le paysage politique, avait lui théorisé le fait qu'il se moquait assez bien d'être corrigé.
Il n'est pas le seul. Par exemple, une promesse qui a été très largement mémorisée, celle de François Hollande.
Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire... Qui est mon adversaire? Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Et ça, Frédéric Saïs, c'est un petit mensonge, un gros mensonge, une déclaration de guerre avec ensuite une capitulation en rase campagne?
Alors ça, c'est compliqué parce que ça ne s'appuie pas sur des faits, c'est davantage une promesse pour l'avenir et elle est beaucoup plus difficile ensuite à étalonner avec des actions. Mais j'avais une question au-delà de ce discours du Bourget pour Cédric Mathiot et au-delà pour la rubrique des désintox. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de paraître de parti pris politique quand on désintox, entre guillemets, un responsable public? Vous avez, je crois, récemment publié un papier pour expliquer pourquoi Nicolas Sarkozy revenait très souvent dans votre rubrique et François Hollande très peu.
Oui, alors on a essayé de faire preuve de bonne foi, ou en tout cas d'arguer de bonne foi. Alors c'est forcément difficile pour certaines personnes de penser qu'on est à Libération et bon, ils vont considérer que si on tape sur Sarkozy, c'est parce qu'on est de gauche. Ce que j'ai essayé d'expliquer dans cette chronique, c'est que les politiques font de la politique de manière assez différente et que Hollande est un mauvais client pour nous parce qu'il est dans un registre qui est assez flou et que ce qui lui est reproché en termes de mensonges, c'est pas tellement les affaires sur lesquelles nous on travaille. C'est-à-dire qu'il est pas tellement dans le mensonge factuel, il est dans la promesse pas tenue. Ce qui lui est reproché, c'est par exemple d'avoir dit je vais inverser la courbe du chômage sans avoir réussi à l'inverser. Est-ce que c'est un mensonge? Non. C'est pas un mensonge factuel au sens où on l'entend, c'est une erreur politique. Peut-être chose plus grave, c'est peut-être le signe d'une politique économique inefficace, mais c'est pas un mensonge. Et finalement, quand on l'écoute, il est assez peu dans la précision. Il est souvent dans le flou, et c'est vrai qu'il donne peu prise à notre travail.
Gérald Bronner.
Non, certainement que le discours de François Hollande ressemble plus à une anguille que celui de Nicolas Sarkozy. Ceci dit, si on se réfère à ce qu'il a dit sur la finance, on peut quand même, on n'est pas dans son cerveau, mais on peut imaginer qu'il y a une forme d'insincérité, qu'il n'a pas vraiment cru qu'il allait affronter tête à tête la finance s'il était élu. Évidemment, en impression. D'ailleurs, c'est une doctrine hein, chez François Hollande. Il pense, si j'ai bien compris, qu'il y a des sortes de séquences comme ça et que dans le fond, il y a une forme d'amnésie. On revient à zéro. Ce qui est faux en termes de représentation, c'est peut-être ça l'erreur que que font ces politiques, c'est qu'effectivement, il y a une amnésie à court terme, c'est-à-dire qu'on oublie un mensonge qui en chasse un autre, une promesse qui en chasse une autre, mais à moyen terme, cela construit une représentation de la confiance. C'est essentiel quand on met un billet dans l'urne, si je puis dire, de vote. C'est aussi un acte de croyance, en quelque sorte, un acte de croyance démocratique. Et c'est ça qui est en train de se déliter.
Mais le sociologue que vous êtes, Gérald Bronner, sait qu'il y a un certain nombre de mensonges auxquels les individus adhèrent de manière extrêmement sincère. Mettons de côté la guerre à la finance. On peut très bien avoir, par exemple, une représentation du travail qui n'est pas nécessairement la bonne. On peut très bien considérer, par exemple, que la présence d'immigrés est de nature à diminuer le nombre d'emplois pour ceux qui sont déjà dans le pays, alors que la démonstration a été faite une multitude de fois que le marché du travail n'était pas un gâteau et qu'il n'avait pas des parts fixes.
Oui, absolument. Mais comme vous venez bien de le dire, le problème de ces vérités, c'est qu'elles ont à remonter la pente de nos intuitions naturelles. Encore une fois, sur un marché dérégulé de l'information, c'est souvent la démagogie cognitive à court terme qui l'emporte, c'est-à-dire des propositions intellectuelles qui flattent nos pentes naturelles. Par exemple, l'idée que le marché du travail serait un gâteau qu'on pourrait se partager, etc., etc. Tout cela, et c'est pour ça que c'est intéressant, et c'est la seule critique que je ferai, n'est-ce pas, à ces chroniques de fact-checking qui sont si utiles aujourd'hui, il faut qu'elles se maintiennent, à mon avis, même si on a l'impression que c'est un peu le travail de Sisyphe, il faudrait peut-être, si je puis me permettre une suggestion, accompagner le fait de vérifier les faits de l'explication de pourquoi ces faits ont paru vraisemblables et qu'ils ne l'étaient pas. Car, en fait, à force de défaire les faits, on ne fait pas reculer les croyances. Ce qui fait vraiment reculer les croyances, à mon avis, c'est la bonne compréhension par chacun d'entre nous des processus intellectuels qui nous conduisent à endosser ces croyances.
On écoute l'un des clients réguliers de la rubrique Désintox de Libération, Nicolas Sarkozy.
J'ai été en charge de la sécurité de la France comme ministre de l'Intérieur au président de la République de 2002 à 2012. De 2002 à 2011, il n'y a pas eu un seul attentat en France. Je dis pas que c'est grâce à moi, mais je sais pas si j'ai fait une erreur, mais en tout cas pas celle-ci.
Mais le contexte est radicalisé dans le monde entier, on l'a vu depuis, l'époque a changé.
Non, monsieur, c'est pas une question d'époque qui change. Lorsqu'on a pris la décision d'aller en Syrie, on n'a pas mesuré les conséquences sur la sécurité intérieure.
Alors ça, c'est un demi-mensonge, puisque Nicolas Sarkozy a été au pouvoir jusqu'en 2012, mais il dit 2011, parce qu'en 2012, il y a eu les morts de Mohamed Merah, et donc cela permet à Nicolas Sarkozy, sans être inquiété, là en l'occurrence, de dire que sous ses mandats, eh bien, il n'y a pas eu d'attentat.
Oui, c'est un exemple pour le coup de semi-vérité, là où il y a beaucoup dans sa bouche d'exemples de total mensonge. Donc c'est, je dirais que c'est pas le, pour moi c'est.
Par exemple.
C'est un spécialiste de l'exagération de toute manière. C'est difficile de prendre un exemple en particulier, mais il y a une manière de vendre sa politique qui est dans l'outrance systématique. Enfin, pour prendre l'exemple le plus récent de ce qu'on entend dans ses meetings en ce moment, il peut par exemple parler de ce qu'il a fait pour l'exonération des heures supplémentaires et expliquer que c'est quelque chose qui a profité à 9 millions de Français, qui ont gagné 500 euros par mois en plus. C'est quelque chose qu'il dit tout le temps. Alors des fois c'est 400, des fois c'est 300. Le fait est que la vérité c'est plutôt 50 euros en moyenne, ce qui n'a absolument rien à voir. Mais dès lors qu'il est dans un mode de communication, il va rajouter des zéros. C'est sa manière de faire de la politique.
Les chiffres sont extrêmement pratiques, Gérald Bronner, pour mentir, tout simplement parce qu'il est bien souvent extrêmement compliqué de vérifier un chiffre. On avait tout à l'heure l'exemple des 350 millions de pounds économisés si l'Angleterre décidait de sortir de l'UE. Comment refaire les calculs ? C'est la raison pour laquelle les menteurs mentent souvent avec des chiffres.
Ben oui, et puis notre cerveau n'est pas bien équipé pour penser l'intégralité du domaine de mathématique, on va dire, aussi bien sur la perception du risque, les probabilités. Puis là, c'est intéressant l'argument de Nicolas Sarkozy, parce que faut pas oublier qu'il n'y a pas eu d'attentat sur le territoire français pendant 16 ans. N'est-ce pas ? Donc lui, il a effectivement bénéficié d'une situation internationale et il s'en attribue la vertu. Vous voyez combien cet argument est démagogique. Je ne veux même pas contester parce que c'est pour le coup irréfutable en quelque sorte comme argument. Mais vous voyez comment on peut manipuler un segment temporel pour faire croire qu'on a une action politique positive. Et ça peut être très convaincant dans une conversation comme ça à la télévision si personne ne vient apporter des arguments rationnels.
Et le fait que aujourd'hui Internet soit un vecteur privilégié d'information, est-ce que cela influe sur la manière dont les mensonges sont détectés ou recherchés par les individus ?
Mais considérablement de mon point de vue, car cela donne une prime au court terme. C'est ça qui a changé fondamentalement. Les politiques, on l'a dit, ont toujours menti. Ils ont toujours eu une vue court-termiste, en quelque sorte, par rapport aux élections. Le problème, c'est que là, il y a une prime sur le marché de l'information grâce aux réseaux sociaux, parce que le moindre mensonge, encore une fois, qui va être un peu démagogique, va être viral, et c'est toujours ça de gagner. Quand la compétition, faut pas oublier qu'il n'y a jamais eu autant de candidats, par exemple, à la primaire américaine ou même aux primaires françaises qu'aujourd'hui. Donc, ça devient, le marché politique devient cacophonique, et le premier objectif, c'est de se distinguer. Et une stratégie pour se distinguer possible, bah, c'est l'outrance, par exemple, hein. L'outrance ou la démagogie. Alors, tout fonctionne comme si vous voulez, c'était un gros cerveau qui n'avait pas de cortex orbitofrontal ou de gyrus singulaire. Ce sont les parties du cerveau qui gèrent, qui diffèrent la jouissance à court terme. C'est pas l'hippocampe étant gérant entre autres la jouissance à court terme, et ces parties du cerveau, elles nous permettent de voir plutôt à moyen et long terme. Bah, c'est comme si tout ça, c'est une métaphore, c'était un cerveau comme ça qui était amputé de ces deux parties et qui avait une jouissance à court terme, une addiction pour la jouissance à court terme.
Frédéric Saïs. Sur la question d'Internet précisément, est-ce qu'il n'y a pas également le fait, comme on est de plus en plus informé par les réseaux sociaux, entre guillemets, on est informé par sa communauté, des gens qui globalement nous ressemblent, pensent comme nous, et donc la propagation d'une info fausse, mais qui semble vraisemblable à mes centres d'intérêt, à mon positionnement politique, etc., a moins de chances d'être démenti au sein de cette communauté de semblables, si j'ose dire.
Absolument, c'est ce que je pointais dans la démocratie des crédules. Je parlais de situation d'insularité cognitive, c'est-à-dire qu'on constitue des îles dans cet océan d'informations. On pensait qu'Internet nous confronterait à la diversité des points de vue. C'était tout à fait raisonnable de penser ça. Mais la suite a démontré que non. La suite a démontré que le célèbre biais de confirmation, c'est-à-dire la volonté de s'entourer d'une forme de confort intellectuel, que nous avons tous, évidemment, était particulièrement prégnant sur les réseaux sociaux. Quand un ami vous contredit trop souvent, que vous ne le connaissez pas dans la vraie vie, qui devient agaçant, vous trouvez toutes les bonnes raisons pour le rayer de votre liste d'amis, et vous trouvez très intelligent généralement les gens qui sont d'accord avec vous.
Xavier Delaporte, est-ce que ça c'est une vraie modification des réseaux sociaux et d'Internet?
Oui, mais ça pourrait peut-être permettre d'expliquer un des arguments qui est avancé par les deux papiers et qui justifie le fait de parler de post-vérité et pas simplement du changement, enfin, ou de l'augmentation d'une tendance qui avait déjà lieu. C'est quand on dit que, contrairement aux mensonges précédents qui visaient à falsifier la vérité, ces types de mensonges-là reposent sur l'idée qu'il n'y a pas de vérité. Et que du coup, se renvoient dos à dos deux interprétations, et que nous-mêmes, journalistes, enfin nous collectivement, nous sommes fautifs du fait de renvoyer dos à dos deux choses qui sont comme deux vérités. Alors, et que ça passe par une faillite des gens qui normalement devraient porter cette vérité, ou institutions qui devraient le porter, qui sont par exemple institutions scientifiques. Et dans ce cas-là, les questions écologiques sont majeures, mais il y en a plein d'autres. Et c'est là peut-être le changement de nature, non ?
Avec une vraie critique des experts qui, bien souvent, comme vous venez de le dire, Xavier Delaporte, sont disqualifiés dans le discours politique. On écoute Michael Gove, le ministre de la Justice britannique et leader de la campagne pour quitter l'Union européenne.
Le président des États-Unis, d'Inde, de Chine, d'Australie, tous nos alliés, la Banque d'Angleterre, la Banque mondiale, le FMI, le MEDEF anglais, quatre anciens secrétaires généraux de l'OTAN, le patron de la sécurité sociale anglaise et la plupart des chefs syndicaux anglais disent tous que vous avez tort. Pourquoi est-ce que le public devrait vous croire, vous, plutôt qu'eux ?
Je ne demande pas au public de croire en moi. Je lui demande de croire en lui-même. Je leur demande de reprendre le contrôle de notre destin et d'entre les mains de ces organisations qui sont distantes, irresponsables, élitistes et ne se soucient que de leurs propres intérêts. Je crois que les gens dans ce pays en ont assez des experts.
Ils en ont assez des experts. C'est un discours qui monte, Gérald Bronner, et qui explique du coup que la désintox soit difficile à faire, puisque finalement, les experts sont eux-mêmes disqualifiés.
Ben oui, cette disqualification, elle touche pas seulement le monde politique, elle est massive hein, à l'endroit du monde politique, mais elle touche aussi, vous le savez bien, les médias hein, et l'expertise scientifique dans certains sujets, pas sur tous les sujets, mais sur certains sujets. Ben évidemment, si ce contre-discours il vient d'un média officiel, il est forcément faux, et c'est certainement pas un hasard, si vous voulez, que tous les sites conspirationnistes mettent en avant le terme réinformation. Hein. Quand vous voyez réinformation, c'est pas la peine d'aller plus loin, généralement, c'est de la trash information d'Internet.
Et à cet égard, en matière de controverses scientifiques, il y a la question du climat avec les climato-sceptiques, et cette question revient au cœur de l'actualité française dans le débat politique suite à un off, comme on dit, à une confidence semi-privée de Nicolas Sarkozy. Expliquez-nous, Cédric Mathiot.
Oui, bah, il était hier devant des patrons, avec un certain nombre de journalistes qui n'étaient pas des journalistes politiques, mais des journalistes économiques. La règle était donc le off. Il a expliqué, probablement pour complaire à son auditoire du moment, qu'on en faisait beaucoup trop sur les questions écologiques et sur le climat, et que évidemment selon lui c'est pas l'homme qui avait modifié le climat avait changé depuis des climat avait pas besoin de l'homme pour changer, et c'est un journaliste de Marianne qui a cramé le off, comme on dit, et qui a donc contraint l'équipe de Sarko à ensuite appeler l'AFP pour essayer un peu d'atténuer le propos en disant non, il n'a pas dit ça complètement, il a dit l'homme ne change pas le climat tout seul, etc. Mais bon.
Le climato-scepticisme ayant été aussi un marqueur, on le voit dans la campagne présidentielle américaine, qui permet effectivement de distinguer républicains et démocrates, en tout cas certains républicains des démocrates, tout simplement parce que là aussi on a une controverse scientifique qui est extrêmement compliquée à trancher, Gérald Bronner, en tout cas par quelqu'un qui n'a aucune connaissance scientifique.
Je crois que ce débat aujourd'hui ne mérite plus le thème de controverse scientifique, puisqu'il a été montré que 97% des articles scientifiques publiés vont dans le sens de l'existence d'un réchauffement climatique et de l'impact de l'action de l'homme, certainement pas le seul impact, mais cet impact est tout à fait avéré. Donc, vous voyez, le simple fait d'utiliser le terme de controverse scientifique est, à mon avis, fautif. Et c'est une des critiques que j'adresserai aux médias sur la question des objets de science en général. C'est-à-dire que, là aussi, organiser un pseudo-débat avec, par exemple, quelqu'un qui est climato-sceptique et quelqu'un qui pense que le réchauffement climatique existe bien, c'est un peu tronqué. Il faudrait mettre 97 personnes contre 3 personnes. Mais ce que je viens de dire là, et c'est facile à dire sur le climat, c'est beaucoup plus facile à dire, par exemple, sur les ondes et sur d'autres sujets qui sont touchy. Voilà. Donc là, il faudrait vraiment que les médias fassent leur travail et le courage de retranscrire dans l'espace médiatique les vrais rapports de force qu'il y a dans le monde scientifique.
Frédéric Saïs.
Une question peut-être à Cédric Mathieu de la rubrique Désintox de Libé. Moi, je voudrais me faire un peu l'avocat de la défense. Est-ce qu'il y a des politiques qui finalement se sont trompés, de plus ou moins bonne foi, qui ont lu votre désintox les concernant, qui se sont ensuite amendés?
Ça arrive, il y en a un certain nombre.
Des exemples de gens qui même vous ont contacté, vous ont dit « Ok, là je reconnais, j'ai fait une erreur, je la ferai plus ».
François Bayrou est quelqu'un qui déteste être épinglé par cette rubrique, qui est extrêmement peu épinglé par cette rubrique et qui une fois nous a dit « Je me suis trompé de bonne foi ». Mais le Front National, sur la question du coût de l'Europe qui a animé le Brexit, s'est corrigé. Pendant des années, le Front National a expliqué que l'Europe coûtait autour de 20 milliards à la France et il n'enlevait pas ce que la France... récupérer.
Ce qui était quand même une erreur.
Mais ce qui, dans le fond, ne change pas tellement leur discours. Aujourd'hui, ils l'ont enlevé, maintenant ils sont à 10 milliards. Voilà. Et je pense que cette erreur de chiffre, en fait, elle n'a aucun impact sur l'auditoire. Et je pense que c'est une chose qui est assez importante. C'est dire que les erreurs de chiffre, je pense que les électeurs s'en fichent. Et qu'ils créditent, en fait, les politiques d'identifier un certain nombre de causes et de problèmes. Et ils sont extrêmement indulgents avec le fait qu'ils les défendent avec des chiffres qui sont pas exacts. Ça, c'est une chose qui est importante. On a peut-être tendance un peu trop, nous, journalistes, à jauger du politique à travers le prisme de l'exactitude. Et je pense que l'électeur est pas tellement dans cette démarche.
Un dernier pour la route, le spot de campagne de Donald Trump, un extrait.
I'm Donald Trump and I'm running for president and I just wanted to talk to the people of Wisconsin.
Je suis Donald Trump et je suis candidat à la présidence. Je veux m'adresser aux habitants du Wisconsin car on dit tellement de mensonges sur moi. Parlons des impôts. Si je suis président, vos impôts vont carrément baisser. Si vous avez un petit commerce, grosse réduction d'impôts. Tous les candidats veulent réduire la sécurité sociale. Pas moi, cela n'arrivera pas. Je vais faire revenir les emplois partis au Mexique, en Chine et au Japon. L'assurance santé d'Obama est un désastre total. Je vais l'annuler et la remplacer par quelque chose de tellement mieux. Et en même temps, on va rendre notre armée plus grosse, meilleure et plus forte que jamais. Plus personne n'osera nous affronter. Et nous allons rapidement nous débarrasser de Daesh. Et on va s'occuper de nos vétérans. Je ne vais jamais vous laisser tomber. Allez voter pour moi mardi. Nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique.
Donald Trump dans ses œuvres sur la post-truth politics, donc la politique qui se moque aujourd'hui de la vérité. Cédric Mathion, on vous retrouve dans les colonnes de Libération. Gérald Bronner, la démocratie décrédule.